Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, je vais vous parler de John Mayall, qui est né en 1933 à Macclesfield dans le Cheshire, au centre de l'Angleterre. Sa carrière s'étend sur plus de 60 ans. Ici, on va évoquer la fin des années 60, où le fondateur de John Mayall and the Blues Breakers a réuni à tour de rôle certains des musiciens de blues et de blues rock les plus connus de l'époque. Lorsqu'en avril 1971 paraît Back to the Roots, les fans attendent beaucoup de ce double album. Il sera pourtant diversement apprécié. Venant après la période très faste des années 68 à 70, où John Mayall a produit de véritables chefs-d'œuvre, ce double disque apparaît finalement comme une compilation d'enregistrements faits avec divers musiciens, mais sans qu'une véritable âme ne se dégage. On y trouve Eric Clapton, juste avant que celui-ci retrouve Derek and the Dominoes et enregistre le fameux album Layla. On a aussi Mick Taylor, qui est alors devenu Rolling Stones, et Harvey Mandel, parti chez Canadian, tout ça aux guitares solo. On retrouve de même les bassistes Larry Taylor, un Canadian également, et Steve Thompson, qui lui fait partie du groupe Bullfrog, qui avait œuvré dans les albums précédents. À noter aussi Sugarcane Harris qui apporte sa touche de violon pour nous faire pénétrer dans l'ambiance feutrée de cet album. John Mayall joue des claviers, de la guitare et de l'harmonica, en plus du chant. Enfin, à la batterie, c'est Keith Hardley qui assure essentiellement aux baguettes. Seul Peter Green n'est pas revenu, lui qui à l'époque faisait face à une terrible crise psychologique après les excès de Fleetwood Mac. Fidèle à une habitude qui gardera toujours, John Mayall, le pape du blues blanc, sort à peu près tout ce qu'il enregistre, et au final cet album mettra du temps à être apprécié. La période qui suivra remettra l'artiste à un niveau plus élevé, mais cet album, Back to the Roots, je vous l'assure, gagne à être connu. Dès son plus jeune âge, John Mayall a été attiré par les sons des musiciens de blues américains tels que Led Belly, Albert Emmons, Pinetop Smith et Eddie Lang. À leur écoute, il a appris par lui-même à jouer du piano, des guitares et de l'harmonica. En 1956, avec son camarade Peter Ward, John Mayall a fondé le Powerhouse Four, composé d'autres musiciens locaux avec lesquels il jouait dans les bals des environs. En 1962, John Mayall est devenu membre du Blues Syndicate à Manchester. C'est là qu'Alexis Corner le persuade alors d'opter pour une carrière musicale à temps plein et de déménager à Londres, où Alexis Corner va le présenter à de nombreux autres musiciens et l'aider à trouver des concerts. À la fin de 1963, avec son groupe, qui s'appelait désormais The Blues Breakers, John Mayall a commencé à jouer au Marquee Club à Londres. Sans succès au plan discographique, mais réputé grâce à ce fameux haut lieu du blues britannique, en avril 1965, c'est là que l'ancien guitariste des Yardbirds, Eric Clapton, remplace Roger Dean et la carrière de John Mayall entre dans une phase décisive. En avril 1966, après des débuts compliqués avec ce jeune guitariste qui sait ce qu'il veut jouer, mais pas avec qui ni comment, The Blues Breakers retournent au studio Decca. Et là, les sessions d'enregistrement sont réalisées en 3 jours et vont donner un disque qui sera adulé, The Blues Breakers with Eric Clapton, sorti au Royaume-Uni le 22 juillet 1966. Mais pour revenir sur Back to the Roots, Le premier titre est Prisons on the Road, les prisons sur la route, où Eric joue de la lead guitar. Son jeu est désormais reconnaissable avec ses fréquents petits signaux musicaux qui multiplient les petits effets rendus désormais possibles avec ses pédales de plus en plus présentes sur scène. C'était John Mayall avec The Prisons on the Road sur OxyWeb Radio. Dans Blues Breakers with Eric Clapton, on trouve 12 titres, dont plusieurs étaient en fait des reprises de pure blues de Chicago. Par exemple, All You Love de Tis Rush, ou encore le hit instrumental de Freddie King, Hideaway. John Mayall en a écrit ou arrangé 5, comme Double Crossing Time, un blues lent avec un solo brûlant du co-auteur Eric Clapton. Eric y a fait ses débuts aussi en tant que chanteur principal, et c'est là également qu'il a commencé à rendre hommage à Robert Johnson avec Rambling on My Mind. L'album a été la percée commerciale de John Mayall, atteignant la 6e place du classement britannique, et a depuis acquis un statut d'album classique, en grande partie pour son audacieuse agressivité et fluidité du jeu de guitare d'Eric Clapton. D'ailleurs, la presse dit que c'est Eric Clapton qui vole la vedette, comme dans le magazine musical Beat Instrumental. Ajoutant avec un euphémisme involontaire, et sans doute beaucoup d'exemplaires de l'album seront vendus sur la force de son nom. Seulement dans l'intervalle, le 11 juin 1966, la formation de Cream avec Eric Clapton, le bassiste Jack Bruce et le batteur Ginger Baker a été révélée dans la presse musicale au grand embarras de Clapton qui n'en avait rien dit à John Mayall. Pour John Mayall, ce fut le choc, même si ce n'est ni le dernier avatar entre eux, ni le plus grave, puisqu'Eric revient ici pour assurer la lead guitar sur un nouveau titre. Il y en aura ainsi 5 au total sur cet album, ce double album, où on reconnaît le jeu discret et si séduisant de Sloan, omniprésent et moderne. Même si le violon de Sugarcane Harris est très présent, trop peut-être. Au fait, suite au départ de Clapton pour Cream à l'époque, John Mayall sait déjà par qui le remplacer, et ce sera Peter Green. Mais écoutons Looking at Tomorrow, regardez vers demain, ce qui semble tout indiquer pour John et Eric, surtout à l'époque. C'était John Mayer, Looking at Tomorrow, sur OxyWeb Radio. Autre guitariste invité, voici Harvey Mandel, qui est né en mars 1945 à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. C'est un guitariste américain connu pour son approche innovante du jeu de guitare électrique. Professionnel à 20 ans, il a joué avec Charlie Musselwhite, Canadite, les Rolling Stones et aussi John Mayer évidemment, tout en maintenant une carrière solo. Harvey Mandel est l'un des premiers guitaristes de rock à utiliser le tapotement à deux mains sur la guitare. Harvey Mandel a grandi à Morton Grove dans l'Illinois, une banlieue de Chicago, où le jeune musicien baigne très tôt dans l'ambiance blues de Chicago. Son premier disque fut l'album Stand Back, Here is the Charlie Musselwhite Southern Band, paru en 1966, avec donc justement Charlie Musselwhite. Décrit dans Legends of Rock Guitar en 1997 comme un album légendaire, il aurait contribué à combler le fossé entre le blues et le rock'n'roll, un de plus. Après les périodes de Clapton, Peter Green, Mick Taylor et Mark Almond, pour ne citer que les guitaristes, John Mayer a fait l'expérience de formations sans batteur, assurant tous les instruments sur deux albums. Mais cela ne dure pas et il forme un nouveau groupe de blues rock, également un peu rhythm and blues électrique, avec justement Harvey Mandel et le bassiste Larry Taylor, tous eux arrivés de Canadite, ainsi que le violoniste Don Sugarcane Harris, qui lui vient du Johnny Otis Show et des Mother of Invention de Frank Zappa. Avec John Mayall sur l'album USA Union, paru en juillet 1970, Harvey Mandel fut obligé de se remettre en cause et de se passer notamment de son remarquable sustain et de son utilisation du feedback comme technique musicale, voire mélodique. Dans Back to the Roots, Harvey Mandel joue sur 8 morceaux. Dans My Children, Mes Enfants, que nous allons écouter, on peut apprécier son jeu subtil, très bluesy. C'était My Children par John Mayall sur OxyWeb Radio. En novembre 1970, John Mayall lança un projet d'enregistrement impliquant plusieurs des musiciens les plus notables avec lesquels il avait joué au cours des dernières années. Cela donna donc ce fameux album Back to the Roots qui présente Eric Clapton, Mick Taylor, Jerry McGee et Harvey Mandel, tout ça à la guitare. Parfois ensemble, mais surtout séparément, mais toujours avec John en tout cas. On y entend aussi Sugarcane Harris au violon, les bassistes Steve Thompson sur un titre et Larry Taylor chaque fois sur les titres où joue Harvey Mandel. L'autre bassiste, John Hammond, qui est aussi l'homme à tout jouer sur tous les autres titres de l'album. Et Ked Hardley à la batterie, Paul Lagos était avec Sugarcane et a fini par jouer sur 5 chansons. C'est également un batteur. John Mayall a écrit toutes les chansons et a chanté sur pratiquement toutes comme d'habitude. En plus de jouer de l'harmonica, de la guitare, des claviers, de la batterie et des percussions. Rien que ça. Les sessions sont déroulées à Londres, elles ont eu lieu en janvier 1971. Ensuite, Eric Clapton s'en ira créer The Wreck and the Dominoes et enregistrera Layla and Assorted Love Songs à Miami. Back to the Roots ne faisait pas la promotion de nouveaux noms. John Mayall avait épuisé son rôle de catalyseur sur la scène blues-rock britannique et vivait à Los Angeles désormais. Pourtant, la liste des musiciens qui ont bénéficié de l'association avec lui, à commencer par diriger la scène blues londonienne, reste impressionnante. Voici un autre morceau avec Harvey Mandel, Unanswered Questions, les questions non posées, où on assiste à un bel échange entre la guitare à effet wah-wah d'Harvey et l'orgue Hammond de John Mayall. A remarquer aussi le jeu puissant de la basse de Larry Taylor.
Santa Rita. Sometimes the world makes me feel that there is nowhere left to turn. Unanswered questions show me a truth so I can learn.
C'était Unanswered Questions par John Mayall sur OxyWeb Radio. Au début des années 70, John Mayall a déménagé aux États-Unis où il passera la plupart des 15 années suivantes, enregistrant avec des musiciens locaux sous différents labels. En août 1971, John Mayall produit une session assez jazzy pour le bluesman Albert King. Et quelques mois plus tard, il fera une tournée avec les musiciens justement présents dans le studio. Sa musique s'oriente alors vers une sorte de jazz-blues fusion. Au cours de la décennie suivante, John Mayall a continué à changer de musicien et de label tout en réussissant à sortir une vingtaine d'albums. À ce stade de sa carrière, John Mayall s'éloigne du blues électrique, joué jusque-là avec des musiciens de rock. Il se met à s'assembler des morceaux de jazz, de funk, de pop et même ajoute des voix féminines. Ce n'est pas sa période la plus facile pour le découvrir et l'apprécier. Dans le morceau suivant, on découvre Gerald James McGee, connu sous le nom de Jerry McGee, un guitariste né à Nice, en Louisiane, en novembre 1937, dans une famille cajun très versée dans la musique locale. Adolescent, Jerry écoute Jimmy Rogers, Chet Atkins, Guitar Slim et B.B. King. Il développe ainsi son propre style influencé par ses racines cajun. En 1960, Jerry a déménagé à Los Angeles où il devient un musicien de session. C'est là qu'il rencontre Larry Taylor, futur Canet Heat. Jerry joue sur des titres des Monkees, d'Elvis Presley, des Everly Brothers, Linda Ronstadt et d'autres. Il compose aussi pour des séries télé. Puis en 1968, Jerry rejoint The Ventures, qui se fera connaître aux États-Unis et au Japon pour ses instrumentaux rock. En 1972, il les quitte pour reprendre à temps plein son rôle de musicien de session. C'est un peu ce qui explique sa présence sur le titre suivant, Blue Fox. C'est un guitariste original qui se fond bien dans la musique du moment de John Mayall, surtout que le violon de Sugarcane Harris est très présent. Oh, c'était Blue Fox, le renard bleu, par John Mayall sur OxyWeb Radio. Parmi les musiciens découverts par John Mayall, Mick Taylor occupe une place à part, pour moi comme pour beaucoup de fans de blues rock. Michael Kevin Taylor, né en janvier 1949, est un musicien anglais, surtout connu comme un ancien membre des Blues Breakers, évidemment, de 1967 à 1969, et des Rolling Stones de 69 à 74. Il est apparu sur certains des albums classiques des Stones. Je citerai par exemple le titre Bleed en 69, Sticky Fingers en 71 et Exile on Main Street en 72. Depuis son départ des Rolling Stones en décembre 1974, Mick Taylor a travaillé avec de nombreux autres artistes et a sorti plusieurs albums solo. À partir de novembre 2012, il a même participé au spectacle du 50e anniversaire des Stones. Puis sur des tournées suivantes, il faisait des apparitions sur des titres attachés à sa période passée au sein des Stones, notamment sur Sympathy for the Devil. Il est 37e dans la liste des 100 plus grands guitaristes de tous les temps, du magazine Rolling Stone. Nombreux sont les guitaristes qui revendiquent avoir été influencés par Mick Taylor. Mick Taylor est né dans une famille ouvrière à Warren Garden City, mais a grandi à Hatfield, dans le Hertfordshire, en Angleterre, où son père travaillait comme monteur pour la compagnie aérienne de Havilland. Et je pense qu'il faut y voir là son dédain pour le Star System et sa volonté d'échapper au végétariat, d'où peu d'albums finalement et donc peu de notoriété au-delà des fans du blues rock. Pourtant, quand on l'écoute sur Marriage Madness, le morceau qui vient, surtout lors de son solo de guitare et ses échanges avec l'orgue de John Mayall, on ressent beaucoup d'amertume pour cette carrière en demi-teinte. Dans le solo de guitare, il fait passer tout son feeling du blues en faisant durer chaque note avec chaleur et lascivité. Mais vaut mieux que j'arrête là, écoutons-le dans Marriage Madness.
I would never tell you marry if you found yourself in love and saw that love return. That's no one else's business. So why would you be signing up a contract with the world? So long as you don't marry, you will always have the freedom, choice to be. Thank you.
killing off the only true lord of love.
C'était Marriage Madness par John Mayall sur OxyWeb Radio. Mick Taylor a commencé à jouer de la guitare à 9 ans, apprenant à jouer avec le jeune frère de sa mère. Adolescent, il a formé des groupes avec des camarades de classe, commencé à donner des concerts sous des noms tels que The Juniors and The Strangers. Ils sont également apparu à la télévision et ont même sorti un single. Une partie du groupe a été recrutée pour un nouveau groupe appelé The God qui comprenait Ken Hensley, futur Uriah Heep. En 1966, The God a fait la première partie pour Cream au Starlight Ballroom à Wembley. En 1965, Mick Taylor a 16 ans et il va assister au concert de John Mayall's Blues Breakers au The Hope Woodwall Community Center à Welwyn Garden City. Or, ce soir-là, Clapton n'est pas venu, et voyant que la guitare d'Eric Clapton était installée, Mick a osé approcher John Mayall et lui proposer de jouer à sa place. John a accepté et fut bluffé par ce gamin. C'est ainsi que 2 ans plus tard, suite au départ de Peter Green, successeur de Clapton, John repensa au jeune guitariste et chercha à le retrouver via une annonce sur Melody Maker. Puis après 4 albums réussis avec John Mayall, Brian Jones, lui, se trouve de plus en plus absent chez les Stones. Aussi, John conseilla à Mick Jagger de recruter Mick Taylor comme guitariste. Prévenu que les Stones voulaient jouer avec lui, Mick se rendit à l'audition, pensant qu'il s'agissait d'une simple session d'enregistrement à préparer, et fut en fait aussitôt embauché, d'abord pour combler le vide laissé par Brian Jones sur leur album en cours d'enregistrement, puis comme nouveau guitariste des Stones. De 1966 à 1969, Mick Taylor a développé un style de guitare basé sur le blues avec des influences latines et jazz. Plus tard dans sa carrière, il a développé ses compétences en tant que guitariste de slides. Avec les Stones, malgré l'emprise de Jagger et Richard et leur manque de considération à son égard, Mick Taylor a marqué de son empreinte les 5 années et les 5 albums auxquels il a participé. Mais quel dommage. Alors écoutons Mr. Sensenman, Monsieur le Censeur, où Mick Taylor montre son éternelle fluidité de jeu avec un John Mayall flamboyant au piano. Just for the fun. Thank you. C'était Mr. Sensaman par John Mayall sur OxyWeb Radio. Durant les années 80, plusieurs découvertes de John reviennent dans le sérail. En 1982, Mick Taylor, Judge McVie et Colin Allen, trois musiciens de sa formation des années 60, le rejoignent pour une tournée mondiale de 2 ans, dont un album live sortira une décennie plus tard. En 1984, John Mayall a restauré le nom de Blues Breakers pour une formation comprenant 2 guitaristes, Walter Trout et Coco Montoya, le bassiste Bobby Haynes et le batteur Joe Yule. Le nom mythique a peut-être contribué à renforcer l'intérêt pour un groupe qui, à tous égards, était déjà remarquable. Une tournée mondiale réussie et des enregistrements live ont fait le reste. Au début des années 90, la plus grande partie de l'excitation était quand même passée et Buddy Whittington est redevenu le seul guitariste principal d'une formation qui comprenait alors l'organiste Tom Cannon. Durant les années 2000, John a continué ses expérimentations entre une guitariste féminine, Caroline Wonderland, ou des musiciens bien installés, sûrement curieux de jouer avec l'icône du British Blues. Je veux parler de Johnny Lang, Gary Moore, Wanger ou encore Billy Gibbons de ZZ Top, jusqu'à des œuvres solo sur son nom comme Nobody Told Me en 2019. Une totale réussite. Bref, on a affaire à un artiste hors pair, fourbillant d'idées pour développer le blues. Et comme dans Back to the Roots, le retour aux racines, il n'y a que ça de vrai. On va finir avec Bucky Albert qui va terminer l'émission, qui est un morceau où John assure tout, tous les instruments j'entends. Étonnant. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un concert de charité réalisé en 1971, le premier du genre, monté par George Harrison avec des amis. C'est le concert pour le Bangladesh. Mais d'ici là, bah, roulez blues.